vous avez des questions, des remarques, ou est-ce que je vous ai totalement assommé?
Je voudrais demander si on peut avoir plus de précision sur le traité de Versailles.
Alors, on change de guerre, là.
Oui.
Bon, le traité de Versailles, il a... Enfin, la partie qui n'est pas connue du traité de Versailles, c'est les clauses sociales, hein, que je vois tout à l'heure. Parce que, bon, il y a le redécoupage de la carte, le traité de paix, il y a les réparations, il y a tout ce qu'on sait, qui ont été des éléments qui ont fait problème dans l'entre-deux-guerres. Mais ce qui est peu connu, c'est les clauses sociales du traité, qui étaient un petit peu inspirées de la pensée de Wilson, le président américain, lorsqu'il avait exposé les buts de guerre des États-Unis quand ils étaient rentrés en guerre en 1917. Et la pensée de Wilson, c'était en gros que si les États européens s'occupaient un peu mieux du sort de leurs concitoyens, ils feraient un peu moins la guerre entre eux, quoi, pour faire vite. C'était ça la pensée de Wilson, un peu caricaturée, mais qui est reprise dans des clauses sociales du traité de Versailles, qui relève de la même logique, qui est que mettons un peu de social dans les différents États qui se combattaient, et ça participera de la détente internationale. Et donc, il y a deux aspects dans le traité de Versailles qui ont dû être déclinés dans les différents territoires. C'est un, la loi des 8 heures, les 8 heures de travail par jour, parce que c'est une vieille revendication du syndicalisme international. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, les 3-8 de l'époque. Bon, que jamais on avait réussi. Enfin, le 1er mai international des travailleurs, il est né sur la revendication des 8 heures. Donc, c'est une revendication qui date de 1886. Hein, lorsqu'il y a eu ce premier mai aux États-Unis qu'on a commémoré après 1889. Donc la journée internationale des travailleurs, c'était sur la journée de 8 heures. Donc le traité de Versailles donne acte à cette revendication, impose à tous les pays qui relèvent du traité de Versailles de installer chez eux, soit par la négociation, soit par la loi, les 8 heures de travail. Et le deuxième point, c'était d'installer là où il n'y en avait pas, parce qu'en Allemagne, il y avait déjà, des systèmes de conventions collectives. Et c'est pour ça qu'en France, avec une chambre qui était très à droite, on a eu en mars et en avril 1919 deux lois, l'une qui portait sur la journée de 8 heures et l'autre qui portait sur l'instauration de conventions collectives. Pourquoi il y a eu ça? Il n'y avait pas seulement la pensée de Wilson, il y avait aussi la crainte de la révolution russe qui, à l'époque, inspirait des envies de transformation sociale et qu'il fallait bien lâcher un peu du lest. Et que dans le traité de Versailles, on a mis des lois sociales aussi pour désamorcer les révoltes ou les risques de révolte ouvrière. J'ajoute que le troisième point qui lui a été beaucoup plus durable et qui provient du traité de Versailles, ça a été l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, le VIT, c'est-à-dire un travail de législation internationale du travail qui est dû au traité de Versailles. Lui a survécu, parce qu'on a gardé l'OIT, la SDN est morte, hein, mais l'OIT est resté et on peut considérer que c'est quand même un acquis. Donc voilà, hein, qu'on peut dire en tout cas sur la dimension sociale.
Et ça n'a pas été un peu plus de misère possible pour le peuple allemand?
Ah ben après, il y a les effets, alors, qui sont maintenant contestés par des économistes sur l'effet des réparations sur l'économie allemande, et en tout cas ça a été un thème des nazis très fort, enfin, un thème de l'extrême droite allemande qui a été très fort, qui a entretenu un nationalisme allemand très fort, qui était, c'est des réparations qui ont conduit à une énorme vague inflationniste en 1920-21 en Allemagne, où les gens transportaient pour acheter leur pain une brouette de billets, enfin c'était une inflation à des milliers de pourcents, enfin c'était 200% par jour, enfin, c'était une hyperinflation absolument délirante, hein, qui a abouti à la disparition du Mark et l'instauration du Deutsche Mark, c'était ça, le Reichsmark avait été abandonné, enfin bref, peu importe. Mais beaucoup ont tiré argument en disant c'est les réparations qui sont derrière ça. Et puis la fameuse, le slogan français, l'Allemagne paiera, dès qu'il y avait une crise financière, on disait l'Allemagne paiera. Alors aujourd'hui, il y a des historiens économiques qui remettent un peu ça en cause, qui disent qu'effectivement, l'Allemagne pouvait payer, que ça a été beaucoup de bruit pour une réalité qui n'était pas exactement prédatrice, contrairement à ce qu'on dit des Allemands. Mais ça a joué un rôle très fort dans le ressentiment des Allemands et qui a été exploité par les nazis à merveille dans les années 30. C'est sûr. Et là, le traité de Versailles sur ce plan, et la politique française, notamment de Poincaré, n'a pas été d'une habileté suprême dans tout l'après-guerre sur ces questions-là.
Sinon, sur l'activité syndicale pendant la guerre, il n'y en a pas eu, en fait.
Bah, vraiment syndicale, ça dépend ce qu'on appelle l'activité syndicale, quoi, parce que négocier, agir, mobiliser, etc., bah, tout ça, non. Bon, par contre, il y a des endroits où il y avait des artefacts de ça, quoi. Il y avait des artifices ou des ersatz, il y a eu plein d'ersatz pendant la guerre, de produits divers et variés. Il y a eu aussi à certains endroits des ersatz de négociation, quoi. C'est-à-dire que ça ne se faisait pas en bonne et due forme, mais on allait voir l'employeur en lui disant, vous savez, par exemple, le cas de l'opéra, là, il remontait directement sur le ministère, sur l'union, il passait par l'union des artistes en disant, bon, mais là, nous, si on ne peut pas recruter 3 machinistes, on ne peut plus assurer les spectacles la semaine prochaine. Alors, on négociait de manière un petit peu comme ça, et puis on négociait des primes, on négociait des compléments, parce que les salaires étaient bloqués, donc on ne pouvait rien faire de ce côté-là, mais on pouvait négocier des arrangements, donc il y a eu des petits trucs qui se passaient comme ça. Enfin, dire c'est l'activité syndicale, pas véritablement.
Mais la grève des mines du Nord était sur quelle base revendicative et organisée comment ?
Bah ça s'est fait comme se faisaient les grèves des mineurs, quoi. C'est-à-dire on ferme le bassin. C'était, alors je me souviens plus des tâches, je crois que ça devait être des questions de salaire, hein, parce que c'était vraiment la question clé, hein, à l'époque. Hein. C'était la question des salaires.
Sécurité aussi,
oh, oui, mais je crois que là le point, oui, bah ça. Toujours eu des grèves sur la sécurité dans les mines. Mais là, autant que je me souvienne, ça avait démarré sur les... J'ai un témoignage là-dessus dans un petit film que j'ai. Un jour, peut-être, on pourrait le projeter, c'est un truc de 50 minutes, c'est l'histoire de la CGT, mais il y a toute la partie d'un témoignage, c'est justement un mineur du Nord qui raconte cette grève-là, et qui explique dans... Moi, j'ai en ch'ti, d'ailleurs, moi, en français, qu'effectivement, faire grève, là, avec les SS qui tournaient autour, les chenillettes et les automitrailleurs, là, c'était sportif de faire grève. Mais physiquement, ils s'étaient bouclés. Bon, alors après, les Allemands ont décidé de rentrer en France. Je ne sais pas comment ça s'est conclu, d'ailleurs, s'ils ont obtenu satisfaction ou pas. Certainement pas ouvertement, mais bon, il y a eu peu de cas comme ça, mais il y a eu des cas de ce genre. Et d'ailleurs, la presse communiste l'a fait connaître. Enfin, dans la VO, il disait, vous voyez, on peut faire des choses... Mais il n'y a pas eu quand même énormément de conflits. Hein. C'était extrêmement risqué. Il y avait même plutôt un discours des structures légales, et même d'ailleurs des syndicats clandestins, qui disaient, attention, vous risquez votre peau, quoi. Hein. C'était pas... Donc il n'y a pas...
Là, j'ai une petite question, mais c'est sans doute lié au fait que je connais
plus fort
les sujets, pardon. Je crois que c'était... 35-36, vous avez dit que le Parti communiste était hostile aux nationalisations. C'est notamment quand c'est vis-à-vis des banques ou des entreprises de manière générale. Ça m'interpelle un peu parce que, enfin, de ce que j'ai pu apprendre au lycée ou en fac, le PC était quand même dans la ligne des soviétiques à l'époque, mais... Pourquoi ils étaient hostiles aux nationalisations?
Ils étaient hostiles aux nationalisations dans le cadre d'un régime capitaliste. Ils étaient favorables à une socialisation générale des moyens de production et d'échange. Donc le système, effectivement, c'est celui qu'il y avait en Union soviétique. Mais là, c'était après la conquête du pouvoir. Or là, en 36, on n'est pas dans une situation... D'ailleurs, Léon Blum l'avait un peu théorisé en disant nous occupons le pouvoir. On est en situation d'occupation du pouvoir et pas en situation de conquête. Donc c'est pour ça aussi que le programme du Front Populaire n'est pas un programme de transformation socialiste de la société, parce que les socialistes à l'époque ont encore un programme quand même assez radical, hein, ils se reconnaissent la lutte des classes,
oui,
le principe de la révolution, etc. Et eux-mêmes sont également hostiles aux nationalisations pour la même raison, parce que les nationalisations, ça voudrait dire qu'on s'installe dans un régime de capitalisme d'État. Alors dans les étapes, là, il y a des textes de Lénine là-dessus sur les 5 étapes du communisme, et justement il fait bien la différence entre le stade du communisme d'État, du capitalisme d'État et le stade du communisme. C'est pas la même chose, hein. Il y a des caps à franchir. Le Parti communiste va venir aux nationalisations dans le cadre du programme national de la résistance, du programme du CNR, où là effectivement il va avec d'autres forces sociales être partisan à la libération de ce qui sera fait, c'est-à-dire un ample programme de nationalisation, de retour à la collectivité, des biens publics, des biens, et en gros, après ça va être théorisé, des biens industriels fondamentaux, notamment tout ce que Marx appelait le secteur 1 de la reproduction. Hein, donc les industries qui sont productrices de biens d'équipement, c'est-à-dire le cœur de la puissance du capitalisme. Les industries de consommation, à la limite, bon, pouvaient être laissées à un marché privé, mais le secteur 1 de la production, de la reproduction, devait être dans les mains de l'État. Mais c'est une conversion qui est de l'après-guerre, hein, de pendant la guerre et après-guerre.
Vous employez là une expression qui me plaît bien et que j'ai pas mal, étant économiste, employé sur la manière dont Poutine gérait les affaires en Russie actuellement. Le capitalisme d'État, c'est un concept qui existait déjà avant, enfin c'était idéologiquement dans les pensées de
l'économiste. On trouve ça dans le... Comment s'appelle ce texte de Lénine sur les cinq étapes? Je ne me souviens plus du titre. Moi, je l'avais étudié parce que j'avais fait un travail sur la planification soviétique. Il catégorisait les différents secteurs de production qui cohabitaient en Russie à cette époque-là. Et il parlait déjà d'un capitalisme d'État. Enfin, un capitalisme d'État, c'est lorsque c'est l'État qui ne remet pas en cause le régime de la plus-value, de la propriété commune, mais qui l'organise lui-même.
Le préempte.
Voilà, qui le préempte absolument. La question du surplus, de la gestion du surplus, est gérée dans le cadre étatique, au lieu de l'être sur le marché ou entre les forces capitalistes. Mais ce n'est pas la remise en cause, c'est ça la grande différence avec le socialisme, hein. Ce n'est pas la remise en cause du fait même du surplus et de son extraction par le surtravail auprès des ouvriers. C'est donc une différence théorique assez importante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Russie ressemble à un capitalisme d'État.
Voilà,
c'est des notions. Le capitalisme d'État, ça. Il y a des textes d'économistes là-dessus.
Oui.
Bon, ça n'a rien à voir, mais par rapport à Vichy. Il a été question de la participation d'éléments de la révolution prolétarienne, de pacifistes. Qu'en est-il du syndicat des instituteurs? Quel a été le rôle, l'ascendance et l'histoire de ce courant?
Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la révolution prolétarienne, c'est un des courants les plus radicaux. Eux, ce sont des révolutionnaires. Ils sont dans l'affiliation du syndicalisme révolutionnaire, antistalinien, bien sûr. Et en fait, on va en retrouver pas mal à Vichy. Il y en a qui ont, qui eux seront réinsérés dans le syndicalisme, encore qu'il y en a qui ne vont rentrer qu'à FO, après que FO, justement, ait levé la réticence. Je pense à Agnauer, par exemple, qui a été un des leaders de la tendance après-guerre, enfin dans FO, après les années 49-50. Il avait été, il n'a pas eu de mise à l'écart à vie, mais enfin, je crois qu'il avait eu des petits problèmes dans une commission. Sur la reconstitution syndicale. Alors, pourquoi? Mais c'est un courant qui a très fort anticommunisme, déjà. Hein, l'antistalinisme qui est devenu un anticommunisme, qui en a drainé certains vers Vichy. L'autre aspect, à mon avis, qui est clair, c'est l'antiparlementarisme, qui était quand même au-delà chez les syndicalistes révolutionnaires, qui était plutôt un déni de la démocratie. Parce que quand on regarde bien les textes, on peut se pencher vers les textes des syndicats eux-mêmes, enfin de la CGT, syndicaliste révolutionnaire, où il y a les principes de la démocratie, il y a un certain élitisme syndical. Et moi, je me souviens de textes où l'adhérent passif, comment ils appelaient ça, la démocratouille, enfin tout ça, il y a beaucoup de... l'adhésion moutonnière, hein, quand ils parlaient de l'élection, le suffrage universel... créent des réflexes moutonniers. Eux étaient un peu au-dessus de tout ça, ils étaient très volontaristes. Alors, regardons bien tous ceux les grands leaders intellectuels qui ont théorisé ou qui ont inspiré les syndicalistes révolutionnaires. Vous trouvez Lagardelle, Sorel. Sorel a été le grand théoricien du syndicalisme révolutionnaire, la violence révolutionnaire, etc. Sorel a une correspondance avec Mussolini, après 23-24. Et on sait qu'il penchera vers des formes où l'État peut être... c'est un ralliement à l'État, ce qui est paradoxal pour eux, mais en France, Gustave Hervé et quelques autres ont déjà montré l'exemple, hein, des anarchistes radicaux qui deviendront... qui basculeront à l'extrême droite. Et Lagardelle, Hubert Lagardelle, qui est vraiment un des grands théoriciens du syndicalisme révolutionnaire, c'est lui qui a créé la revue Le Mouvement Socialiste en 1909, il est vraiment celui qui organise ce courant sur le plan intellectuel, et Lagardelle, c'est celui qui succède à Belin au ministère du Travail, de Vichy. alors que c'est une, vraiment une grande figure intellectuelle du mouvement syndicaliste révolutionnaire. Donc il y a quand même, quelques parentés, et là encore, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est la création de la démocratie qui fait la différence. C'est ceux qui, quelle que soit leur conception sur l'organisation économique et sociale. Alors là, chez les instituteurs, par exemple, le syndicat des instituteurs va quand même, est dans la tendance syndicale. La plupart sont des pacifistes. Mais, Delmas, le premier, mais ils ne vont pas très loin à Vichy. Ils s'en retirent. Parce que, par contre, sur la question de l'occupation allemande, sur la question de la charte, ils ne vont pas jusque-là. Ils ne suivent pas. Mais par contre, là, il y a un pacifisme assez fort. C'est pour ça qu'il faut... C'est intéressant de regarder toutes les trajectoires, tout ce qui ont fait que certains sont allés jusqu'au bout. Dans le SNI, il y en a qui sont allés assez loin. Mais la plupart, ils ont décroché en cours de route, alors qu'ils avaient fait ce choix au moment de l'armistice, quoi, au moment où Belin l'a fait. Mais je crois qu'il y a quand même la question, de la part de Delma, enfin, des gens du SNI, la clé, c'était la démocratie. À partir du moment où le syndicat n'était plus libre, où on était obligé d'adhérer, ou en tout cas le syndicat ne pouvait pas exercer les libertés fondamentales, alors eux qui étaient quand même aussi des républicains, ils ont décroché. Et on le voit très bien également dans le syndicalisme chrétien, parce que le syndicalisme chrétien, enfin je développerai ça une fois prochaine, mais il est assez modéré et conservateur. Travail, famille, patrie, pour les syndicats catholiques français, c'est pas choquant, hein. Le travail, c'est les syndicalistes, la famille, parce qu'ils étaient fondamentalement familialistes et extrêmement patriotes. Pourtant, ils vont pas à Vichy. Enfin, il y en a qui y vont, quelques métallos, Pérez et quelques autres se retrouvent à Vichy, mais globalement, la CFTC sera résistante aussi. Et pourquoi elle l'est? Sur la question de la démocratie, parce qu'à Vichy, qui est-ce qu'il y a? Il y a toute l'Église catholique qui les a combattus, les syndicalistes chrétiens, parce qu'eux étaient des démocrates chrétiens. Alors que l'Église catholique française, elle a continué à traiter la République de gueuse jusqu'aux années 30, incluse. Hein. Le journal des catholiques, jusqu'en 1927, c'est l'Action française. Alors, après, ils ont été excommuniés par le Vatican, l'Action française, donc les choses se sont un petit peu déplacées, mais tous les dignitaires catholiques, pas tous, il y a l'évêque de Lyon, quelques autres qui n'y sont pas allés, mais quasi tous, et comme les patrons, ils se sont retrouvés à Vichy. Et les syndicalistes chrétiens, ils n'y sont pas allés, parce que ceux-là, c'était leurs adversaires. Et c'était leurs adversaires depuis la création de la CFTC en 1919, sur la question de la démocratie, du ralliement à la démocratie. Donc c'est bien quand même le fil rouge qui traverse ces années-là et qui vont s'organiser, autour duquel va s'organiser les clivages, quelles que soient les convictions économiques et sociales, quel que soit le degré de pro ou d'anticommuniste, c'est la question de la démocratie qui fait partage.
Je pense que j'ai anticipé une séance suivante, mais je me pose la question, avec la description que vous faites de l'état du syndicalisme, en particulier la fin de la guerre, de la place du mouvement syndical dans l'élaboration du programme du CNR. On a l'impression qu'il n'y avait plus rien, et pourtant, il allait quand même sortir des choses assez extraordinaires immédiatement après-guerre.
Oui, ben les syndicats y prendront leur part, mais ça, enfin, bon, on en reparlera une prochaine fois, je travaillerai ça de plus près, parce qu'il faut quand même regarder ça en détail avant de formuler ce des grands. Mais je ne suis pas sûr là que ce soit vraiment les éléments syndicaux qui aient joué le rôle le plus important dans les élaborations du Conseil national de la résistance. Je pense que les courants politiques ont pris le pas assez vite, y compris certains hauts fonctionnaires, certains des gens qui avaient été dans les cabinets sous le Front populaire, etc. Où là, il y a eu une élaboration qui s'est faite quand même principalement par les politiques, plus que par les syndicalistes. Mais enfin, il y en a d'autres, on verra d'ailleurs des syndicalistes passer en politique après, comme Lacoste, comme Gazier, comme des gens qui étaient des dirigeants de la CGT confédéraux, qui deviendront ministres après-guerre. Donc, mais il faudrait regarder de plus près, c'est une bonne question.
Une petite question sur les 500 000 migrants chassés de France en 1931. C'était des travailleurs avec papiers. Et quelle était l'attitude des syndicats?
Ils avaient des papiers, bien sûr. On avait été les chercher. Hein,
mais ce n'est pas des sans-papiers qu'on cherchait
les gens du Maghreb dans les années 50.
Hein. Et d'où,
Pologne, essentiellement. Pologne, Italie, Pologne, Belgique. Italie. C'est vraiment les trois gros contingents qu'il y a eu. Il y avait aussi des Russes qui sont arrivés, mais aussi qui avaient quitté. Les Russes qui étaient chauffeurs de taxi à Paris. Enfin, ça, c'était l'anecdote. Il y en a eu d'Europe centrale, un peu, effectivement, dans ces années-là. Le gros, c'était quand même les Polonais. Quoi. Mais on est allé les chercher, comme on est allé chercher les Maghrébins. Hein, alors, donc, ils avaient des papiers, etc. Ah, les syndicats, là-dessus, ils ont été très, très embarrassés. l'opinion publique, y compris ouvrière, était assez favorable à ce qu'elle parte. Enfin, avec des nuances, hein, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient partagé quand même les conflits et qui étaient quand même très socialisés dans le syndicalisme en France. Donc, ça, il n'y a pas eu une adhésion des syndicats à la base. Au niveau national, ils ont été un peu empêtrés. La CGT a un peu laissé faire. La CGTU s'est opposée. Mais voilà. En gros, hein, les grandes catégories, après, il faut aller voir en détail sur le terrain, quoi, comment ça se passe.
Ah bah, si on réfléchit, on voit quelques petits documents où on voit ces expulsions de gens qu'on reconduit en Pologne.
Ouais. Ah, s'il y a un truc là-dessus.
Je pensais pas que c'était 500 000, c'est énorme.
Ah, c'était énorme.
Il y a des registres. Il y a des tubes.
Précision chronologique sur la reprise du conflit en 1936, au mois de septembre. Les congés ont duré que 15 jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de la grève et la reprise du conflit au mois de septembre? Parce qu'il y a eu un mois d'août où il y a eu un flottement, là. Puisque les congés n'étaient pas d'un mois.
Non, c'était 15 jours, c'était 2 semaines. Hein. Et je ne suis pas sûr que tout le monde partait en même temps. Donc, les usines fermaient quand même, mais elles n'ont pas toutes fermées en même temps. Hein. Donc c'est comme ça que ça a pu se transmettre d'une période à l'autre. Et puis surtout en septembre, on commence à voir la dégradation des prix, enfin les prix augmentent, etc. Donc ceux qui avaient fait grève pour les salaires, qui avaient eu satisfaction au mois de juin, il y en a beaucoup qui ont repris la grève en septembre parce que les prix avaient monté, parce que les facteurs de grève étaient restés là. Quoi. Eux, ils n'étaient pas partis en vacances.
Je me pose la question. C'est pourquoi je la pose là. Je me demande si historiquement, aujourd'hui, les recherches ne sont pas faites justement pour qu'il y ait eu des accords entre l'Union soviétique, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, enfin tous ces charmants pays. Ils se sont mis d'accord pour donc la montée du fascisme, du nazisme et l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand on voit justement 1938, là, le mouvement de grève qui a l'échec, etc., les syndicats qui étaient en dessous de la table, la République espagnole anéantie, alors que l'Union soviétique aussi a participé à l'anéantissement de la République espagnole. Moi, je me demande si vraiment il n'y avait pas des accords, l'union sacrée, là-haut, tout là-haut.
Oh, là-haut, il ne faut pas évoquer le grand complot des élites, des synarques ou autres qui dominent le monde et qui tirent les ficelles comme ça. Non, je crois que c'est pas. Ça se passe pas comme ça. Il y a des moments où il y a des accords. Il y a eu une diplomatie secrète pendant un moment. Les accords n'étaient pas toujours sur la table. On a vu après qu'il y avait eu... Enfin, le fond quand même, c'est qu'il y a eu des hostilités très profondes entre nations, les rancœurs qui étaient héritées de la guerre précédente. Quand même, le nazisme avait aussi quelques caractères particuliers. Un régime raciste, pas seulement vers l'extinction des Juifs d'Europe, mais aussi les pays slaves. Les slaves étaient considérés comme des sous-hommes. Or, toute la partie orientale de l'Allemagne, c'était quand même... Bon, il y avait l'idée de récupérer une partie de la Pologne qui était réputée historiquement prussienne, etc. Mais il y avait quand même un racisme fondamental qui est au cœur de la dynamique de l'Allemagne nazie. Donc après, les Russes, ils ont cherché à se défendre, à passer les alliances qui pouvaient leur permettre de s'en sortir. Les Français, les Allemands, les Anglais, ils avaient leur diplomatie, etc. Bon, la guerre d'Espagne, évidemment, c'est un peu... Bon, l'Union soviétique n'a pas... Elle n'a sûrement pas défendu l'Espagne républicaine comme elle aurait dû. Hein, puis il y a tous les règlements de compte avec le poum, etc. Enfin bon, ce qu'on a su après sur les côtés un peu obscurs de l'intervention stalinienne dans les affaires des pays à l'étranger, comme ça. Mais l'Union soviétique a quand même été du côté des républicains, malgré tout. Donc elle sentait bien aussi que là se jouaient quand même déjà des rapports de force entre les États fascistes et les autres. Là, il y a quand même eu un grand partage, l'axe d'un côté, les pays fascistes, et puis les pays alliés, qui étaient tout de même encore, ce qu'on peut en critiquer, mais qui étaient quand même encore des démocraties par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Autriche, à la Hongrie, etc., on avait quand même une alliance, un axe qui a été constitué, pas seulement de pays, mais entre des régimes politiques, qui étaient des régimes fascistes. Donc on a quand même bien des... C'est une lutte d'idées aussi, c'est une lutte de conception. Et je ne pense pas qu'on puisse ramener ça à une espèce d'accord in fine entre des forces qui domineraient tout ça. Il y a eu des affrontements réels entre des civilisations, entre des conceptions du monde. Hélas, c'est ce qui a fait tant de morts. Ce qu'on a conjuré avec la construction européenne.
Est-ce que justement la non-intervention de la France en Espagne n'a pas été catastrophique pour, enfin, n'aurait pas changé la face du monde et l'histoire postérieure?
Ça, c'est difficile.
Les républicains avaient gagné,
c'est toujours de la France. C'est difficile de réécrire, de même qu'on dit que si la France était intervenue en 1938 au moment de l'occupation de la Ruhr, Hitler a fait un formidable coup de bluff parce que son armée n'était pas prête à supporter une offensive française. L'état-major français a estimé qu'il n'avait pas les moyens de réoccuper la Ruhr qui venait d'être remilitarisée par l'Allemagne. On peut dire, mais enfin, vous savez, c'est difficile de reconstruire comme ça. Est-ce que la guerre était vraiment inévitable? En tout cas, la progression hitlérienne. Enfin, quand on lit un livre très intéressant, c'est, enfin, il y en a plusieurs, mais enfin, comme je n'ai pas tout lu, je parle de ce que j'ai lu. C'est le bouquin de Shaw sur Hitler, la biographie en deux tomes de Kershaw, de Yann Kershaw, où il montre bien que finalement les succès d'Hitler ont été acquis à coup de bluff dans un premier temps, et que c'est ça qui a fait qu'il a été supporté par les Allemands. Parce qu'au départ, il ne faut oublier que le régime nazi s'impose, certes on dit par les élections, mais enfin un résultat qui a été acquis par la violence. On ne peut pas dire, et notamment Kershaw fait la nuance d'ailleurs entre les différents États allemands, en montrant que les États catholiques ont suivi moins vite que les États protestants. Enfin, on n'est pas assez l'Allemagne pour être très au fait de tout ça, mais bon, en tout cas, il a construit son succès au fur et à mesure de ses succès extérieurs, et que si on avait très tôt endigué un certain nombre de succès extérieurs, ce qui militairement semble-t-il était possible, c'est possible aussi que ça ait pris un autre chemin en Allemagne.
Surtout en Espagne en 1936, ils auraient pu tuer peut-être ce que les Maldives ont fait pour la dictature argentine. Un petit échec à l'extérieur discrédite d'un régime autoritaire.
Sans doute, c'est vrai que ça aurait peut-être changé la face du monde. Peut-être.
On en reprendrait peut-être aujourd'hui parce qu'il serait à cette chose.